Truffaut écrivait ainsi pour rendre hommage à Raymond Devos. Je n'oserais pas dire que sa peur a disparu, mais que Raymond a appris à dissimuler son anxiété, à nous faire croire qu'elle est seulement le sujet de ses textes, alors qu'elle est sans doute sa raison de paraître sur scène et de s'exposer à 100%. Probable autoportrait en creux, donc, puisque Truffaut s'est longtemps caché derrière son alter ego Jean-Pierre Léo, avant de pouvoir se mettre en scène dans L'Enfant sauvage, La chambre verte, La nuit américaine, faire la voix off dans Les deux Anglaises et Le continent, et faire également quelques caméos. Alors, de La chambre verte, un film dans lequel il joue, il dit « Ce film, c'est une lettre à la main. Si vous écrivez à la main, la lettre ne sera pas parfaite. L'écriture sera peut-être un peu tremblée, mais ce sera vous, ce sera votre écriture. » Donc, lui, acteur dans ses films, c'est en quelque sorte ce qu'il appelle dans La chambre verte l'achèvement de la figure, de ce cinéma d'auteur personnel défendu avec tant de conviction. Et pour problématiser notre propos, on peut se demander si, comme il est précisé donc à la fin de la lettre de rupture qu'il a écrite à Godard, lorsqu'ils se sont gravement disputés, on peut se demander si tout cela qui s'écrit doit pouvoir se dire. Cette possibilité, cette nécessité, est-ce confirmée ou infirmée dans ces films? Je peux déjà casser le suspense, ça sera non, mais bon, voilà. Donc tout d'abord, je vais voir l'œuvre comme roman épistolaire, comme lettre filmique. Effectivement, donc les films de Truffaut sont comme des lettres envoyées par lui, par le destinateur, au destinataire. Dans la revue Art, il disait, donc en 1957, il écrivait « Le film de demain ressemblera à celui qu'il a tourné, et le nombre de spectateurs sera proportionnel au nombre d'amis que possède le cinéma. » Et Truffaut a toujours été très attaché à l'exigence de lisibilité de ses films. Il faisait des films pour un grand public, il fallait que ce soit compréhensible. C'était vraiment une préoccupation de clarté qu'il hérite aussi du cinéma classique. Exigence également d'intimité et de rapport personnel. Alors, certains destinataires sont plus précis, à en croire les dédicataires de certains films. Alors, évidemment, les 400 coups sont dédiés à Bazin, L'enfant sauvage à Léo. Bon, il y a d'autres cas. La lettre dans son œuvre, souvent, c'est une médiation donc entre les personnes. Et je pense à cet exemple très beau d'En baiser volé, où Fabienne Tabar arrive et dit à Douanel, « Vous m'avez écrit hier et la réponse, c'est moi. » Dans Jules et Jim, un des personnages dit « Dans un jour, tu écris, dans un jour, tu seras là » et pas une pauvre lettre. Donc la lettre, c'est moins bien que la présence, c'est un substitut. On trouve également de nombreux donc intermédiaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Des jeunes, dans L'argent de poche, dans L'homme qui aimait les femmes, qui sont chargés de transmettre un mot ou une lettre. Il y a également des intermédiaires dans le sens où les lettres sont lues. Dans Les deux Anglaises et le continent, par exemple, la lettre est lue par la mère, donc là c'est plutôt négatif. Un exemple un peu plus pervers, dans Jules et Jim, Jim demande à Gilberte de poster la lettre pour Catherine, etc. etc. Dans l'œuvre de Truffaut, donc, s'opère une sorte de glissement du particulier, en fait, au général. Donc j'aimerais maintenant, dans un deuxième temps, voir l'évolution qui existe dans l'œuvre entre un passage de la dénonciation du règlement de compte à quelque chose de plus positif qui serait la création et l'offrande. Alors c'est pas forcément linéaire, parce que ça, d'un film à l'autre, ça rechange. Alors tout d'abord, la dénonciation. Linda, dans Fahrenheit 451, dénonce son mari Montag en glissant sa photo dans la boîte à dénonciation. On retrouve également des lettres anonymes dans Vivement Dimanche. Et il y est fait allusion aussi dans Le Dernier Métro. Alors là, il ne s'agit pas d'une lettre anonyme, mais d'un article. Un article qui est signé, mais dont on nous dit que celui qui l'a écrit, donc il s'agit du critique d'Axia, a les mêmes mobiles que ceux qui écrivent des lettres anonymes. Avant la guerre, il n'était rien. Et on se souvient que Truffaut a été un critique acharné de la qualité française, qui dénonçait donc un certain cinéaste avec beaucoup de virulence, mais bon, lui signait ses articles, donc c'était pas anonyme. Cela dit, j'aimerais maintenant établir un parallèle entre Truffaut critique, d'autre part, et le personnage de Davaine dans La Chambre verte, qui donc écrit des rubriques nécrologiques. Julien Davaine doit rédiger celle de Massini, Massini étant son ancien ami, ami avec lequel il s'est brouillé, disputé, qui est devenu donc son ennemi. Et pour écrire sa rubrique nécrologique, en fait, il écrit, on le voit à l'écran, comme s'il écrivait une lettre personnelle. On voit pas la différence avec comme s'il écrivait une lettre. Donc il y a un manque de distance qui est frappant. Et cette diabolisation de l'homme est en fait inversement proportionnelle à la sacralisation de l'écrivain dans les cas de son coup. L'écrivain, c'est Balzac, qui est idolâtré par Doinel. Hein. Et vous vous souvenez, Doinel lui fait un hôtel. Bon, le rideau de l'hôtel prend feu, comme la robe de Jeanne Moreau, inversement, quand elle détruit des lettres pleines de mensonges dans Jules et Jim. Donc, en fait, la dévotion dans l'œuvre de Truffaut est aussi dangereuse que la malédiction. Alors, pour revenir donc à ce parallèle entre Davaine et Truffaut, Truffaut qui rédigeait donc de véritables exécutions, je voudrais prendre un exemple, qui est l'exemple d'Autant Lara. Autant Lara qui a adapté, donc était un de ses parangons de la qualité française, et qui a adapté donc Le Diable au corps. Une preuve visuelle pour montrer que peut-être il n'y a pas forcément une opposition radicale entre les deux univers. Je vais vous montrer une image tirée de, non pas du Diable au corps, là, mais du Le Rouge et le Noir, donc de mise en scène par Autant Lara. Et donc Mathilde de la Mole, qui vous fait penser, je pense, j'espère, à une autre Mathilde, bien sûr, dans La femme d'à côté, jouée par Fanny Ardant. Et les deux portent évidemment le même prénom, Mathilde. Alors, j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas une influence souterraine, malgré tout, hein, ou inconsciente. Le producteur d'Autant Lara pour Le Diable au corps s'appelait Paul Graetz et avait proposé, après Les Mistons, à Truffaut, donc, de tourner un film sur l'enfance. Bon, finalement, ce qu'il a décliné, il n'a pas fait ça avec Paul Graetz. Bon. Mais par ailleurs, dans Les 400 coups, dans le film, il y a l'épisode donc du camarade Morisset qui vient demander des nouvelles de son camarade Doinel. Et c'est une feinte, en fait, pour faire comprendre aux parents de Doinel hein, que Doinel a manqué les cours. Bon, et bien ça, c'est un épisode qui vient du Diable au corps. D'autre part, à la fin du Diable au corps d'Autant Lara, il y a un figurant à la toute fin. Et c'est l'acteur Rémy. Alors, simple figurant à la fin du Diable au corps. Sauf que l'acteur Rémy, ensuite, dans l'univers de Truffaut, devient un personnage principal, enfin, va jouer des personnages principaux de ses films, puisqu'il va jouer le père de Doinel dans Les 400 coups, et ensuite, il aura un rôle important également dans Tirer sur le pianiste. Voilà. Alors, bon, bien sûr, Rémy, c'était un acteur qui était un acteur prolifique à l'époque, qui jouait beaucoup, mais quand même, ça fait écho, me semble-t-il, à une des choses qui tenait à cœur à Truffaut, à savoir ne mépriser aucun personnage dans les films, et c'est un des reproches qu'il faisait justement à ses tenants de la qualité française, hein, c'était de valoriser les vedettes, par exemple, et de négliger les petits rôles. Donc là, il me semble que dans cette façon de promouvoir, en fait, celui qui n'est qu'un figurant, on peut retrouver donc une des grandes théories critiques de Truffaut. Autre thème commun également, c'est le thème de la clandestinité entre lâcheté et culpabilité, qui est commun donc à Radiguet et à Truffaut, donc et à Autant Lara via Radiguet, donc enfin l'adaptation de Radiguet. C'est donc le motif de comme un voleur. Par exemple, dans La Peau douce, lorsque le personnage est à Reims, vous savez qu'il, vous souvenez, il cache son amante, enfin il la met dans un hôtel le temps de pouvoir aller faire sa conférence, et ensuite un fâcheux veut le ramener à Paris, et il dit ensuite à son amante « Je me suis sauvé comme un voleur ». Ça, c'est une phrase qui vient textuellement du Diable au corps. Également Jacqueline Bisset, donc à son beau-père dans le film de la nuit américaine, hein, dans Pamela, qui dit alors partons tout de suite comme des voleurs. Donc bon, sachant que Truffaut était un très très grand admirateur de Radiguet, hein. Donc il me semble voilà que ami-ennemi, c'est plus complexe que ça. Alors, maintenant, l'exécution, elle peut avoir comme envers la création. Là, dans le cas de critique Truffaut, c'était pas simplement critiquer pour critiquer, c'était aussi, ça débouche sur, finalement, la création d'une véritable œuvre, ensuite, quand il passe à la réalisation. Donc, dans son œuvre, est dépassé, finalement, le pur règlement de compte pour aboutir aussi à une offrande. Et on peut trouver une différence entre le délateur honteux, entre le geste ennemi, celui de, par exemple, Linda dans Fahrenheit 451, hostile à l'égard du proche, et d'autre part, le geste familier qu'on trouve dans L'argent de poche, que là, c'est le pré-générique.
Mon cher Raoul, je suis en voyage avec mon père, et nous nous sommes arrêtés à Bruyères-et-Lichamps, qui est exactement le centre de la France. Je vais aller pour la première fois en colonie de vacances. Et toi ? J'espère que ce sera une colonie mixte. Ta cousine qui t'embrasse, Martine.
Voilà, donc c'est le tout début du film, et là on voit vraiment cette conception du film comme lettre hein, qu'on envoie et qu'on adresse en fait au spectateur. Truffaut caméo, là ici, mal caché derrière ses lunettes, hein, mais évidemment reconnaissable, avec tout un jeu entre le faux et le vrai, puisque la petite fille qui joue n'est pas, et sa fille dans la fiction, dans le film, là, de L'argent de poche, mais n'est pas sa véritable fille. Cela dit, il fait jouer ses propres filles dans L'argent de poche par ailleurs. Donc c'est voilà, ces filles qu'il fait apparaître aussi dans d'autres films, entre autres Les Deux Anglaises et Le Continent, et aussi dans L'Enfant Sauvage, mais brièvement. Alors j'aimerais maintenant voir en quoi la plupart des rôles tenus par Truffaut relèvent de l'incarnation et vont s'opposer à l'apparition, qui a deux régimes différents en fait de vie de Truffaut à l'écran. Hein. L'apparition, c'est un terme que j'emprunte à Fabienne Tabar, hein, puisque dans Les Baisers Volés, donc elle déclare être une apparition, mais elle est bien sûr bien plus qu'une apparition. Enfin, elle ne veut pas se cantonner à une apparition. Alors, tout d'abord, une remarque sur les noms des héros, des héros que joue Truffaut donc dans ses films, puisque dans la première version de La Chambre verte, le héros se nommait Ferrand, qui finalement est le nom du metteur en scène dans La Nuit américaine. Donc tout ça pour dire qu'en fait, les personnages joués par Truffaut ont des points communs, évidemment. Et ces trois films sont liés soit au cinéma comme Chance de salut ou de perdition, soit sont aussi liés à la présence affirmée des pères. Alors jouer dans ces films, ça a été pour Truffaut une tentation récurrente, même si ça s'avère à chaque fois une épreuve. Il est convaincu, par exemple, en ce qui concerne La Voix off, que l'échec des Deux Anglaises et Le Continent lui est à attribuer. Enfin, c'est à cause de sa voix off. Hein. Donc bon. Alors c'est vrai que très souvent il a eu recours à des doubles. Alors Jean-Pierre Léo, Aznavour, Denner, auquel il avait d'ailleurs songé un temps pour La Chambre verte. Et il y a eu des occasions manquées, puisqu'il avait envisagé de jouer le rôle de Stanislas Prévine dans le film Une belle fille comme moi. Bon. Alors, donc il y a des rôles qui sont le personnage principal, et puis il y a toute une série de caméos. Alors, le premier caméo qu'il joue, c'est dans Les 400 coups, c'est lors de la scène du retors. Et le retors, c'est une métaphore du cinéma, comme l'est La Chapelle dans La Chambre verte. Or, La Chambre verte, à propos de ce culte des morts, n'est-ce pas aussi la fonction finalement du cinéma, hein? Et je pense au générique de La Nuit américaine où les acteurs sont encadrés comme dans des photos, l'équivalent de photos qu'on voit sur des tombes, hein, des petits cercles avec voilà. Alors, comparons ce que serait un caméo par rapport au personnage principal. C'est un petit peu comme une sorte d'humiliation. Alors, j'emploie pas le terme humiliation dans un sens négatif, hein, c'est ramener à terre, c'est-à-dire que par rapport à une position qui serait soi-disant dominante ou surplombante du metteur en scène, jouer un caméo, c'est rentrer dans la mêlée, hein, s'abaisser. En tant qu'acteur, par ailleurs, c'est aussi renoncer, enfin, c'est faire mourir le cinéaste, hein. C'est difficile d'être les deux à la fois. Et cette mort du cinéaste, c'est exactement ce qui prend le risque de filmer, en fait, lorsqu'il filme sa propre mort aussi dans La Chambre verte. Jouer un caméo, c'est par ailleurs une façon de saluer son héros, d'en être solidaire, et je pense bien sûr à L'homme qui aimait les femmes, au tout début du film, où on voit donc, on voit Truffaut qui salue donc le corbillard dans lequel est son héros Bertrand Morane. Bon, en même temps ici, c'est aussi un jeu d'annonce par rapport au film qui va suivre, La Chambre verte, puisque là, Truffaut n'est que spectateur du mort, tandis qu'il va le devenir dans La Chambre verte. Et puis, jouer un caméo, ça a aussi un lien avec l'handicap, et là je reviens un peu au motif de l'humiliation, puisque c'est une forme d'atteinte à l'identité, à son identité de metteur en scène et à l'identité de ce qui serait un personnage principal important. Bon, l'identité, le handicap, je veux dire, on le retrouve dans La Nuit américaine où le metteur en scène joué par Truffaut est sourd, comme l'est donc l'enfant dans La Chambre verte, l'enfant qui est le double du personnage principal joué par Truffaut. Bon. En tout cas, le caméo, par rapport à un rôle principal, ça serait plutôt, si on utilisait une comparaison, à mettre du côté de la carte postale, hein, et je repense donc au début donc de L'argent de poche, plutôt que de la lettre. Hein. C'est le signe d'une présence, mais une présence qui n'est pas développée, qui est juste une esquisse et qui est une signature. Donc pour revenir sur l'interprétation par Truffaut, qu'elle soit petite ou qu'elle soit importante, dans tous les cas, elle confère un aspect personnel à ses films. Et c'est intéressant, il y a un leitmotiv dans la correspondance, dans ses rapports avec Helen Scott. Helen Scott, hein, avec laquelle il a fait donc, le livre sur Hitchcock. Donc un leitmotiv, quelque chose qui revient fréquemment, c'est qu'elle lui reproche de lui avoir envoyé une lettre une fois tapée à la main, hein, et donc pas assez personnelle. Et il lui écrit, par exemple, il reconnaît ses torts en disant « Elle était trop impersonnelle, d'où les quelques lignes manuscrites ajoutées à la hâte. » Donc le rapport à la dimension manuscrite. De même que dans ses films, donc jouer avec son corps, c'est une façon d'être plus personnel. Comme si, en fait, pour être personnel, il fallait en passer par ce recours au corps. Alors, Truffaut invoque aussi le fait d'être davantage en contact direct avec les autres acteurs. Par exemple, pour L'Enfant Sauvage, il dit « Il m'a semblé que le travail essentiel dans ce film, n'était pas de régler la mise en scène, mais de s'occuper de l'enfant. J'ai donc voulu jouer le rôle du docteur Itard pour m'occuper moi-même de l'enfant, pour éviter de passer par un intermédiaire. Bon, c'est probablement vrai, mais c'est évident que c'est un alibi aussi et un prétexte, hein, puisque en fait ça masque le besoin de reconnaissance qui est flagrant dans le fait de jouer, enfin de s'exposer lui-même en jouant dans ses films. Donc j'en viens à ma deuxième partie, un besoin de reconnaissance dans tous les domaines, et dans les fictions, également dans le domaine professionnel, puisque dans L'Enfant Sauvage, le docteur Itard va confondre le public et le privé, puisqu'il va faire venir l'enfant sauvage, en fait, dans son propre domicile. Il va l'étudier dans son propre domicile. Alors, premier point, je vais voir en quoi ce besoin de reconnaissance, en fait, se trahit par la démesure, et une démesure qui est pathologique. Alors, tout d'abord, il y a le nombre, par exemple, le nombre de lettres. On se souvient de l'héroïne dans Baiser volé, qui se plaint du nombre de lettres envoyées par Douanel, excusez-moi. D'autre part, dans L'Enfant Sauvage, lorsque le docteur Itard revient, qu'il n'a pas eu l'accord pour continuer à payer la pension de Madame Guérin, il est accueilli par l'enfant sauvage, et vous vous souvenez de cette film, c'est un des plus beaux passages de toute l'œuvre de Truffaut, où l'enfant lui touche le visage à plusieurs reprises avec sa main. Donc, geste de reconnaissance, mais excessif. C'est pas une simple apposition de la main, c'est plusieurs fois la position de la main sur le visage. Et donc, évidemment, la scène infirme la prétendue incapacité à la sociabilité de l'enfant, mais on voit ici que le problème de la reconnaissance est lié à l'excès. Ça se manifeste par plusieurs expressions. Alors, la fébrilité, par exemple, d'Henner dans L'homme qui aimait les femmes, tape comme une brute et avec un seul doigt. Et c'est le cas de Truffaut également. Dans sa propre correspondance à Helen Scott, il écrit « Je ne tape qu'avec un seul doigt ». Et c'est d'ailleurs dans Vivement Dimanche, c'est pareil, la secrétaire Fanny Ardant ne tape qu'avec un doigt. Donc je ne tape qu'avec un seul, mais plus fort. Donc, selon cette loi bien connue de la compensation qui fait, paraît-il, que les manchots baissent mieux que les non-manchots. Alors, bien sûr, ici s'établit un lien entre l'écriture et l'acte sexuel. Bon, et d'autre part, donc, ce qui m'intéresse évidemment, c'est cette référence à l'infirmité. Et on se souvient que dans La Nuit américaine, lors du cauchemar, l'enfant qui vole les photos de Citizen Kane, en fait, au moment de la séquence du cauchemar, en arrière, il y a un néon, il y a un magasin, et il y a un néon où il y a écrit « surdité ». En fait, comme si la sensibilité au visuel était accrue de la déficience auditive. On a le sentiment que une faiblesse, en fait, est à l'origine ensuite du déploiement d'une force. Alors, la démesure, elle se manifeste également dans un cas particulier qui est le motif du colis. Et j'entends le colis un petit peu comme grosse lettre, comme lettre caricaturale. Et là, bien sûr, je pense au sketch très drôle dans Baiser volé, où le personnage Douanel doit emballer un paquet pour se faire engager, mais c'est une simulation puisque de toute façon il va être engagé puisque c'est le détective, et il y a plusieurs personnes qui se livrent au même test, et Douanel et Jean-Pierre Léaud donc est particulièrement maladroit, donc c'est caricatural, mais il est adoubé en fait par le chef. Voilà, donc là, scène de reconnaissance caricaturale pour ce colis. Alors le colis, on le retrouve également dans La Nuit américaine, et ici c'est à nouveau lié donc au besoin du père. C'est la fameuse séquence très lyrique où le metteur en scène joué par Truffaut ouvre un colis qui comprend plusieurs livres de metteurs en scène qui sont les metteurs en scène de prédilection de Truffaut. Voilà. Alors autre cas, il y a le colis, et autre cas un peu similaire, ça peut être le cas du panier de nourriture. Et je pense là donc à un épisode de L'Argent de poche, où en fait une fillette abandonnée par ses parents s'empare du porte-voix de son père policier pour alerter donc le voisinage car elle a faim. Et donc tous les voisins s'activent pour lui transmettre un colis avec de la nourriture. Alors on est dans un conte, c'est pas du tout réaliste, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que juste au moment où elle reçoit le panier, elle l'ouvre et elle dit à deux reprises, tout doucement mais quand même à deux reprises, « Tout le monde m'a regardé ». Comme par hasard, dans La Nuit américaine, on voit Truffaut avec un porte-voix identique à celui qu'a la petite fille dans l'épisode cité. Donc, à travers ce parallèle, on voit que la fonction de la lettre, en fait, par ce parallèle, c'est bien sûr de nourrir l'estime de soi, puisqu'il y a de la nourriture dans le panier de nourriture. Alors, appel à reconnaissance, bien sûr, mais en même temps qui se heurte à un amour impossible, car amour décalé. Donc là, c'est mon deuxième point. Et je pense à Adèle H, qui est en proie donc à une boulimie d'écriture, et il y a un passage à un moment donné où elle demande à son ancien amant Pinson, embrasse-moi, Et juste le plan suivant, en fait, elle écrit une lettre à ses parents, chers parents. Donc on voit bien, espèce de, par ironie tragique, qu'elle se trompe de cible. En fait, la demande d'amour et de reconnaissance, elle s'adresse aux parents et non pas à l'amant. Et bien sûr, je mets ça en lien avec le caméo très célèbre dans ce film de Truffaut, qui croise Adèle H. Et Adèle H. Le prend pour son amant. Donc il y a ici une espèce de, d'ironie tragique également, puisque Truffaut, en décidant de jouer ce petit rôle, met à distance son propre échec sentimental avec l'actrice, donc Adjani, hein, qui les conduisait à ce moment-là et qui refusait de reconnaître, en fait, et d'abonder dans sa demande d'amour. Bon, c'est une private joke, mais assez triste. Alors, puisque la lettre est ce que l'on envoie, je voudrais insister sur un objet un petit peu paradoxal qui s'envoie également, et c'est le cas de l'obus. Voilà, je fais référence donc à la chambre verte. Donc, c'est la deuxième rencontre entre Cécilia Mandel, qui joue donc le rôle de la secrétaire du commissaire Priseur, et donc Julien Davenne. Alors, ils se sont brièvement rencontrés, c'est la deuxième fois. Au début de la séquence, on voit Truffaut qui manipule l'obus. Et puis ensuite, à nouveau, on les revoit avec évidemment un plan qui est plus que suggestif. Et l'obus n'est pas, j'insiste, hein, c'est important, puisque dans le cadre de la guerre, enfin la guerre n'est pas en arrière-plan dans le film, hein, c'est pas simplement pittoresque. Et je renvoie au début du film tellement lyrique, hein, sur les soldats morts à la guerre, voilà. Donc, il me semble ici que l'obus décoré, l'obus embelli, hein, connote bien sûr la blessure, mais la blessure esthétisée, la blessure réécrite. Et c'est justement une scène de reconnaissance, puisque Cécilia fait savoir à Julien, enfin à Davenne, qu'elle le connaissait déjà et qu'elle avait été très sensible quand ils s'étaient rencontrés au fait qu'il la considère comme une adulte. Il s'adressait à elle comme une adulte. Voilà. Et le sous-texte, par ailleurs, bien sûr, c'est que le sexuel est ici, puisque là, évidemment, le but est très phallique, hein, j'insiste pas sur le, avec le tableau au-dessus. Le sexuel est un appel et une demande de reconnaissance. Et là, il me semble que c'est un aveu, bien sûr, de la part de Truffaut lui-même, de façon très, très flagrante. Alors, faut-il signer et assumer ou faut-il se cacher quand on écrit? Alors, je vais vous montrer un objet un peu moins phallique que l'obus. C'est juste la plume. Là, c'est un peu plus... Vous voyez, un moyen de dialogue un peu plus civilisé. Mais cela dit, l'obus, c'est ce qui entrait en ligne de compte dans la guerre. Et la guerre, on peut aussi l'entendre au sens métaphorique, hein, dans les films. La guerre sentimentale, hein, que se livrent les hommes et les femmes dans les films de Truffaut. Et ce thème de la blessure est très présent. La guerre conjugale, la guerre affective. Hein, faut-il dire clairement, explicitement ou se cacher? Bien sûr, je pense à la peau douce, entre autres, qui est tournée dans l'appartement de Truffaut lui-même, et on sait qu'il était obligé de masquer certaines choses qui venaient de sa propre vie afin de ne pas blesser les proches. Alors, il a recours parfois au déguisement dans ses films. Il se déguise. Alors, les films, ce sont à chaque fois les films dans lesquels il joue des films très dépouillés, très austères. Hein. C'est une caractéristique commune, hein, qui ne cède pas à un pittoresque inutile, et pourtant, de temps en temps, il se déguise. Et ça suffit donc à créer une forme d'étrangeté. Alors, c'est la tenue du soldat, donc, au début de la chambre verte. C'est, par ailleurs, le chapeau haute forme dans L'Enfant sauvage. Et c'est, donc, dans Adèle H, hein, le caméo, en militaire. Bon. Alors, il y a d'autres façons de se cacher. On n'est pas obligé de mettre un déguisement. Et donc, j'en viens au cas, donc, dans la chambre verte, où Truffaut se cache, hein, exemple très connu, où il se cache derrière la vitre. C'est la scène, donc, où... Alors, évidemment, c'est une scène qui s'oppose à la scène que vous avez vue précédemment dans L'Argent de poche, où j'avais volontairement laissé l'extrait courir afin que vous puissiez voir le baiser derrière la vitre. Donc là, opposition totale. Dans ce cas-là, c'est la clandestinité, et alors que dans l'autre cas, c'est la transparence. Hein, c'est une forme de pudeur. Et c'est finalement deux régimes du voyeurisme au cinéma. Hein. Le fait de se cacher presque de façon honteuse, et de l'autre côté, au contraire, une forme de partage et de transparence pudique. Voilà. Là, le personnage que joue Truffaut est muré donc dans sa fidélité funèbre à sa femme. Alors, dans l'Hôtel des Morts, alors pourquoi il se cache derrière la vitre, vous vous souvenez peut-être, c'est parce qu'il croise donc son ami qu'il a vu au début du film, qui avait perdu sa femme, qu'il avait accompagnée, et là, l'ami vient au Globe pour présenter sa nouvelle femme, et donc Truffaut ne veut pas, enfin le personnage ne veut pas rencontrer cette nouvelle femme puisqu'il est choqué. Dans l'Hôtel des Morts d'Henry James, en fait, le héros commence par soulever son chapeau face à l'inconnu avant de comprendre son identité, de comprendre que c'est une femme, mais donc en fait il est beaucoup moins sauvage dans la nouvelle, dans le texte d'Henry James, il est beaucoup plus sauvage dans la chambre verte. Alors peut-être donc que le personnage ce mur pour ne pas avoir à reconnaître ses torts, à savoir l'erreur de s'enfermer dans un culte stérile des morts et renoncer à la vie. Donc, alors, il se trouve que la femme qui joue celle qui rencontre, donc la nouvelle femme, est jouée en fait par Marie de Poncheville, qui était à l'époque la véritable compagne de Truffaut. Donc là, on reconnaît une forme de masochisme et de sadisme du metteur en scène Truffaut, qui impose à son personnage, joué par lui-même, le spectacle de son union avec une autre. Alors il y a tout un jeu donc entre le faux et le vrai, le fictif et le réel, qui existe également donc entre les 400 coups et la nuit américaine. Et on se souvient de l'épisode catastrophique dans les 400 coups, où Doinel, donc, arrivant dans la cour de récréation, se trouve confronté donc à Petite Feuille, l'instituteur, et faute d'excuses, faute de mots d'excuses à fournir, il est obligé de justifier son absence et il invente un mensonge, la mort de sa mère. Or, cet épisode, en fait, est rejoué avec une étonnante inversion des rôles dans la nuit américaine. Auparavant, on a vu donc des personnages amener des pots de fleurs, enfin des pots de végétation. Donc en fait, notre attention est attirée, même si c'est en arrière-plan, même si c'est dans le décor, notre attention est attirée sur les végétaux.
Oui. Voilà, il faudra que je me fasse remplacer pendant 3 jours.
Ah bon ? C'est avec qui ?
C'est-à-dire elle est morte ma mère.
Ah,
c'est arrivé brusquement ? Non, elle s'est depuis longtemps, mais pour elle, ça a été une délivrance.
Oui, je comprends bien sûr qu'elle est
de mais nous, on a l'entourage.
Oui, je comprends,
je suis sûr.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pouvoir y aller maintenant.
Non,
docteur, venez, ne vous dérangez pas du tout. Non, venez.
Alors, regardez le noir et le blanc à chaque fois, là.
Voilà, asseyez-vous. Je voulais dire, on va voir seulement.
Noir et blanc, à nouveau.
On revient dans une heure.
Bon, bah si le plan est fini, je vous amènerai, il faut que j'aille aussi.
Bon, je voudrais bien savoir maintenant ce qui se pose à ton
bon. Voilà, donc j'avais laissé un peu pour attirer l'attention sur le noir et le blanc. Alors, il se trouve que le film La Nuit américaine peut aussi être vu comme la chronique d'une mort annoncée, puisque depuis le début, il y a des personnages qui attendent l'annonce d'une mort. C'est Valentina, l'actrice, qui attend un coup de fil pour lui apprendre de la mort, qui attend donc un coup de fil concernant la mort de son fils qui a une leucémie, etc. Il y a un autre cas également. Et en fait, ça survient, mais de façon inattendue, avec ce personnage-là, qui est un personnage complètement secondaire, qu'on ne voit pas du tout. Et en même temps, la nouvelle, il y a une impasse sur le mode de communication de la nouvelle. Donc, ce n'est pas une lettre, évidemment, c'est l'époque moderne, ça serait un coup de fil, mais il n'est même pas question du coup de fil. Et donc, ça insiste, cette omission, sur le vide de la mort. Bon. En fait, vous avez vu que le metteur en scène, Truffaut, est donc caché à ce moment-là derrière des végétaux. Hein. Alors, cela dit, je reviens à cet extrait dans L'Enfant sauvage.
Il me serait possible, en l'examinant, de déterminer enfin quelle sont l'intelligence et la nature des idées d'un adolescent privé de son enfance de toute éducation pour avoir vécu entièrement séparé des individus de son espèce.
Bon, là, ce ne sont pas des feuilles, ce sont de la paille, mais enfin, bon, c'est toujours des végétaux. Donc, caché sous les végétaux, qu'est-ce qui est caché? En fait, c'est évidemment un enfant sauvage, de même que... Voilà, donc là, le parallèle. Et on voit bien qu'il y a le jeu de surimpression entre l'acteur Truffaut au début et puis l'enfant sauvage, redoublé donc par ce lien commun aux végétaux. Alors, ailleurs, dans le film La Nuit américaine, pour reprendre notre fil rouge végétal, on voit Nathalie Baye, qui vient de faire des avances de façon très crue donc, à Bernard Ménez, enfin, au personnage joué par Bernard Ménez, qui en reste quoi. Et en fait, de façon très étonnante, elle va se déshabiller, mais elle va se déshabiller derrière des végétaux, alors qu'elle a par ailleurs été très crue, très directe avant. Donc il n'y a aucune nécessité, il n'y a pas de pudeur à avoir. Donc c'est surprenant. Donc c'est vraiment une façon d'insister sur la nécessité de se cacher. Et au-delà de ça, nécessité de se cacher, bien sûr, pour se mettre à nu, pour se dévoiler. Alors, pour récapituler, donc, l'extrait de l'annonce de la mort d'une mère par quelqu'un de l'équipe technique, c'est l'occasion pour Truffaut de jouer la compassion. Et même si cette compassion, elle est mise en retrait, elle est quand même sensible, puisqu'il se met justement en retrait. Et tout se passe donc comme si, dans La Nuit américaine, Truffaut faisait donc amende honorable, en quelque sorte, et nous disait rétrospectivement qu'il n'avait pas d'excuses pour justifier l'exécution trop brutale de sa mère dans les 400 coups. Alors, il se livre ici à une palinodie par film interposé, donc sa propre mère d'ailleurs est morte en 1968. Et je vous rappelle que dans La femme d'à côté, le personnage de Fanny Ardant déclare de façon théâtrale à son psy, pour le réveiller puisqu'il s'endort, C'est alors que j'ai décidé de tuer ma mère, donc pour attirer son attention. Alors évidemment, venant du personnage de Mathilde, c'est un leurre, hein, c'est faux, mais si on adopte le point de vue de Truffaut, c'est bien sûr vrai. Hein, donc il tue sa mère pour attirer l'attention par besoin de reconnaissance. Bon, il existe d'autres façons de se cacher, mais je ne les prends pas en considération parce qu'elles sont moins liées donc, au motif de la lettre. Et bien sûr, là, j'insiste sur le fait que l'instituteur, au départ, s'appelle Petite Feuille aussi. C'est son surnom et c'est pas au hasard. Sachant que l'autre institutrice dans l'argent de poche s'appelle Mademoiselle Petit et c'est évidemment celle qui est incapable de reconnaître le talent de ses élèves puisqu'elle passe à côté d'un magnifique acteur qui joue une tirade d'Harpagon de façon éblouissante une fois qu'elle est partie. Bon. Donc, la lettre trouve un équivalent visuel dans la feuille végétale pour cacher l'émotion face au vide. Alors, le vide, c'est l'absence d'inspiration pour justifier une faute dans le cas du douanel des 400 coups. Ou bien, c'est bien sûr le vide au sens fort, le néant, la mort. Et là, j'en veux pour ultime preuve visuelle. Donc, le suicide de Jules et Jim. Alors là, la voiture vient de tomber du haut du pont. Elle est tombée, elle est cachée par les végétaux. Alors, la voix off parle de roseaux, mais en fait, à nous, à l'écran, ce qu'on voit, ce n'est pas des roseaux, c'est vraiment des feuilles. Et le plan suivant, vous allez voir, où on voit le fondu enchaîné, donc entre le plan qui précède et puis l'arrivée du cercueil. Voilà, donc il me semble qu'on voit bien dans ces extraits que la feuille, image de l'écrit, cache en fait un lien avec la mort. Et Catherine, dans Jules et Jim, annonce, me semble-t-il, de façon troublante, l'ambivalence de Truffaut, qui est à la fois metteur en scène et acteur, puisque Catherine met en scène son suicide, elle l'organise, et en même temps, elle le joue, elle est aussi également l'actrice du suicide. Voilà, donc j'aimerais maintenant, dans une dernière partie, voir la cruauté de la reconnaissance, ou le rapport qui existe entre la lettre et la mort. On se souvient, dans les Mistons, la fameuse phrase sur la plus cruelle des nouvelles, la mort qu'apporte la missive. Alors, premièrement, tout dire ou pas. Effectivement, les personnages, lorsqu'ils écrivent, font des omissions. Et donc, le personnage de Belmondo dans La Sirène du Mississippi dit « Je ne vous ai pas tout dit dans mes lettres ». Et c'est assez fréquent dans les films de Truffaut. Puisqu'effectivement, on trouve des petits arrangements avec la vérité. Alors, dans La Nuit américaine, par exemple, il y a un angle de prise de vue qui est une façon de tricher avec la vérité. C'est l'actrice enceinte.
C'est vrai?
Oui,
tant mieux. C'est joli ça. Bon, je prends les mails, c'est tout. C'est pas trop.
Non, non, c'est très bien.
Bon.
Bon, je crois que c'est.
Ça va, oui?
Très bien, Stécie. Okay. Partez tranquille.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt.
Bon voyage.
Au revoir, Yann.
Au revoir.
Au revoir, Marty. Bon voyage. Et vous, bon boulot.
Allez, on regarde la suite.
Alors, l'autre passage dans La Nuit américaine où il y a une pellicule comme ça qui s'enroule, c'est au moment des rushs de l'accident qui a lieu dans Pamela. Et donc, c'est un accident de voiture. Et là, bien sûr, au contraire, c'est lié au motif de l'accident en tant que grossesse. Donc, on voit bien le lien. Et donc, la pellicule, le film, finalement, compensation donc à cette vérité donc de l'accident grossesse. Donc, dans ce passage, la dissimulation du ventre est liée à la révélation aussi de la grossesse, il y avait un autre épisode dans le film, est lié donc au fait de dicter une lettre. Alors ça renvoie aussi à un épisode biographique, puisque la façon dont Truffaut a lui-même appris le mystère de ses origines. Alors mon deuxième point, donc l'aveu dans ces films semble très souvent fatal, et la lettre d'une certaine façon est diabolisée. Il y a comme un effet un peu à la Balzac de la peau de chagrin, puisque chaque souhait mène à la mort, et l'expression du désir en fait condamne. Quand la lettre est trop directe, elle est source de mort. Alors, il y a les personnages qui s'évanouissent, par exemple, dans Les Deux Anglaises et Le Continent. Et puis, il y a, bien sûr, dans La Chambre verte, le cas extrême. On est au-delà de l'évanouissement, puisque le personnage meurt. Alors, cela dit, dans La Chambre verte, donc, je disais que toute l'œuvre de Truffaut refuse la frontalité. Et donc, il y a souvent recours à cette figure du zigzag qui a déjà été étudiée dans d'autres films. Alors là, je vais m'en tenir donc à La Chambre verte. Le zigzag, c'est par exemple lorsque la lettre venant de l'évêque est reçue, la lettre qui annonce finalement que le projet de construire la chapelle a été accepté par l'évêque. On voit le personnage qui amène la lettre et ça fait tout un zigzag et ça passe par la bonne et ensuite par l'enfant. Hein, donc c'est pas direct. Et est mis en scène la question de la traduction de la lettre, puisque l'enfant, Truffaut, va lire la lettre à l'enfant sourd et muet. Et donc, il y a tout un passage avec même un moment où on ne comprend pas. Voilà. Donc, la question de la compréhension de la lettre, de la réception de la lettre, fait l'objet donc d'une attention particulière. Et cette scène, qui est un petit peu surprenante, en fait, ne se comprend pleinement qu'en lien avec la scène finale, où il est véritablement impossible à entendre de la part du personnage principal, de Daven, l'amour que lui formule donc Cécilia. Et la mise en scène redouble en fait du visage et de la voix de Nathalie Baye la lecture de la lettre. Et ça problématise en fait, par cette mise en perspective implicite, la réception de ce qui devrait être une bonne nouvelle aux yeux de Daven, puisque il apprend qu'elle l'aime. Bon. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et ce qui devrait être une bonne nouvelle, un peu comme dans le cas de l'évêque, où il reçoit la bonne nouvelle de la construction de la chapelle, devient en fait non pas le déclencheur, puisque le personnage est déjà malade, mais devient le moteur de la catastrophe. Et effectivement, un peu avant, dans La Chambre verte, lorsqu'il le personnage descend pour aller rejoindre Cécilia, il descend l'escalier, contrairement à L'Enfant sauvage, où à la fin, L'Enfant sauvage monte l'escalier, mais là, il descend l'escalier, il y a tout un jeu de zigzag, avec un effet de leurre avec le miroir, donc qui déjà nous renseigne sur cette impossibilité de l'aspect direct, d'une communication trop directe. Alors, d'autre part, dans le film, la lettre était comparée à une tombe qui est, pour lui, il comparait ça. Daven disait qu'il ne pouvait pas savoir quelle était la tombe sur laquelle allait se recueillir Cécilia, puisque ça serait l'équivalent de l'ouverture, l'équivalent d'une violation de lettre. Donc on voit que pour lui, il y a une espèce de sacralisation de la lettre. Et cette sacralisation de la lettre se révèle en fait un obstacle à la rencontre. Que cette lettre soit relayée par une parole et une présence est impossible. Dans Les Deux Anglaises, Muriel s'évanouit en recevant une lettre, et là c'est la mort littéralement, qui visualise donc de façon hyperbolique la difficulté de la reconnaissance amoureuse. Alors cette lettre de Nathalie Baye, alors c'est pas dans le texte de L'Hôtel des Morts, pourrait être providentielle. Ça pourrait être le coup de théâtre ultime. Et en même temps, on voit que cette ardeur communicative de Cécilia est en fait, il y a une forme de dimension performative de la lettre. Cette ardeur, finalement, elle tue et c'est une contre-finalité. Cela dit, si on considère donc que l'appel à reconnaissance passait de façon perverse par le culte des morts, il faut imaginer Daven au comble de l'extase, sa mort étant donc l'aveu paradoxal de la réciprocité. Alors, dernier point, rapidement, donc cette lettre qui finalement pourrait être une bonne nouvelle ne l'est pas. Il y a un contre-exemple dans La Nuit américaine où justement le personnage de Jean-Pierre Léaud reçoit une lettre et c'est un télégramme en fait, excusez-moi, un télégramme de Tokyo et qui l'invite à venir tourner Premier amour de Tourguenieff. Et bien sûr, ça lui offre l'alibi d'une évasion, dit-il, pour fuir ses emmerdements. Donc on voit ici que le télégramme, c'est l'occasion d'une fuite, tandis que la lettre est davantage de l'ordre de la fuite, de l'ordre de l'indirect, et elle ne peut pas être de l'ordre du face-à-face et de la confrontation, c'est pas possible. Dans L'Enfant sauvage, Truffaut, le personnage que joue Truffaut, arrête d'écrire à la fin lorsqu'il voit l'enfant reparaître, il arrête d'écrire pour aller à sa rencontre, tandis que, évidemment, cette fin heureuse ne peut aboutir donc dans La Chambre verte. Donc, pour conclure, l'épistolaire chez Truffaut, c'est toujours sous le signe donc de l'ardeur, de l'hyperbole. Et là, je renvoie aux propres lettres de Truffaut. Ça, je vous invite à le lire et le relire. Les propres lettres de Truffaut qui sont absolument magnifiques. Où il signe parfois ses lettres par « ami, ami, ami ». Comme s'il fallait absolument rendre une authenticité à des formules qui ont perdu, qui sont devenues des formules de convention. Et ça me fait bien sûr penser à la formule de Madame Jouve, dans La femme d'à côté, lorsqu'elle dit, elle demande d'embrasser Mathilde et elle insiste en disant « ce n'est pas une formule ». D'autre part, je n'ai pas insisté sur la façon de jouer de Truffaut acteur, qui est quand même très particulière et qui correspond dans ses films, en fait, a une façon à la fois d'être présent, d'être acteur, et en même temps a une façon de s'absenter par cette espèce d'étrangeté de l'addiction. Et donc, on peut, me semble-t-il, reprendre la formule épitaphe de la femme d'à côté en disant « ni avec toi, ni sans toi ». Ça serait la façon de jouer de Truffaut dans ses films. Alors, la question du père, disions-nous, hante les trois films dans lesquels il joue le personnage principal, et de « qui est le père ?», qui était la question concluant la scène du colis dans La Nuit américaine, à « où est le mari ?». Le mari, donc le docteur Nelson, qui est marié donc à l'actrice jouée par Jacqueline Bisset. Où est le mari? Et on voit, en fait, il détourne la tête dans une espèce de jeu de cache-cache. Il n'y a que le spectateur. Effectivement, nous savons, nous connaissons la véritable identité du personnage. Donc, tout un jeu de cache-cache. Or, ce qui est intéressant, c'est que le docteur Nelson, qui est vraiment une figure de père idéal, en fait, dans le film. C'est le mari, bien sûr, mais il se comporte comme un père. Il est bienveillant, il est paternel, il est aux petits soins, il est réconfortant, il console, il pardonne, enfin, voilà. Et donc, ce personnage insiste sur le fait que c'est un père, puisqu'il s'appelle, en fait, il est joué par l'acteur David Markham, qui se trouve être le père de Kika Markham, qui joue une des deux Anglaises, sachant que l'autre Anglaise était jouée par Stacy Tandonter, Stacy étant le prénom de l'actrice qui est enceinte dans La Nuit américaine. Donc, vous voyez, il y avait un effet de boucle là qui est assez, assez flagrant. Et donc, ici, le personnage se détourne pour préserver la vie privée de l'actrice, qui est jouée par Jacqueline Bisset. Mais en même temps, il appelle, en fait, il nous invite à le reconnaître. Donc la question « Where is the father ?», qui était répétée dans les 400 coups à plusieurs reprises et qui est déclinée donc à propos d'une Stacy dans La Vie américaine vue de dos, trouve ici, me semble-t-il, dans ce plan une réponse qui intervient sous les traits d'un père fictif américain qui est en fait joué par un acteur anglais, un père étranger, mais un père en fait idéal. Alors, où est Truffaut, cinéphile, qui n'a jamais pu apprendre l'anglais, cette langue non maternelle? Est-il dans la peau du metteur en scène? Où est-il dans la peau du personnage acteur? Probablement, que ce soit dans la peau de l'un ou dans la peau de l'autre, en fait, c'est qu'il en appelle donc à la reconnaissance du spectateur.